Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à bord de Wagon Livre, votre rendez-vous littéraire comme chaque mercredi à 21h sur Radion. Nous vous proposons ce soir des extraits d'une conférence donnée à la Maison Jules Roy à Vézelay le 10 août 2013. Une conférence organisée par l'association Romain Roland et par l'association des Amis de Vézelay, au cours de laquelle Jean Lacoste évoque Vézelay sous l'occupation, mais Vézelay vu par l'écrivain Romain Roland. En effet, Jean Lacoste, philosophe et germaniste, a établi, a noté et publié le journal inédit de Vézelay 1938-1944 aux éditions Bartilla, et ce depuis l'automne 2012. Un ouvrage considérable, plus de 1000 pages. C'est une belle occasion ce soir d'évoquer ce grand écrivain, cet intellectuel très au fait de la culture allemande, prix Nobel de littérature en 1915. Je rappelle que Romain Roland est né dans la Nièvre, à Clamecy, en 1866. Il mourra à Vézelay le 30 décembre 1944. Certains écrivains, dont Aragon, estimèrent alors qu'il aurait eu sa place au Panthéon. Il repose tout simplement dans le cimetière du petit village de Brèves, entre Vézelay et Clamecy. Le journal de Vézelay est resté 50 ans sous scellé à la Bibliothèque nationale. C'était une intention de Romain Roland qui avait été exprimée. Sa veuve et sa sœur ont souhaité que la rétention de ce journal soit prolongée jusqu'en l'an 2000 par respect pour les personnes vivantes qui y étaient mentionnées. Ce journal constitue un document très précieux de l'époque. Romain Roland revient s'installer en France en 1938 dans cette maison de Vézelay devenue le musée Zervos, rue Saint-Étienne. Âgé et malade, Romain Roland voulait sans doute se rapprocher de la France du Front populaire où il était enfin une figure reconnue, et puis sans doute avait-il manifesté le désir de retrouver la terre de ses parents et de ses ancêtres. De 1938 à 1944, Romain Roland est, si l'on peut dire, dans la mêlée, puisqu'il partage le sort matériel et moral des Françaises et des Français, alors que pendant la Première Guerre mondiale, Romain Roland se trouvait en Suisse. Il décrit, dans une sorte de chronique à la fois, la vie quotidienne vézelienne, les grands événements du monde et les rencontres qu'il fait de personnalités très diverses, puisque cela va de Maurice Thorez à la reine de Belgique, en passant par des écrivains, des éditeurs et même des officiers allemands qui demandent à le voir. Sans oublier des gens de la région avec lesquels il a des rapports très chaleureux, par exemple un certain Marcelot, pépiniériste de Clamecy, ou encore le boulanger Crochet en bas de Vézelay et un jeune couple de militants de Migennes. Désormais éloigné de la politique, la question de la foi, de la spiritualité et de la conversion est au cœur de la réflexion de son journal. Romain Roland restera pourtant indifférent à la basilique de Vézelay, tandis que sa femme, Macha, russe orthodoxe, se convertira fin 39, début 40 et rencontrera Claudel et s'adonnera à la lecture d'ouvrages de mystique. Le moment est venu de laisser la parole à Jean Lacoste. Alors, à quoi ressemble le village de Vézelay que découvre Romain Roland en 1938 ?
Vézelay est une ville qui meurt dans l'amertume de son passé, l'ombre d'une ville que font vivre seulement les étrangers. Son versant sud est habité par de petits bourgeois réactionnaires et des rentiers. Le versant nord paraît abandonné à un peuple maigre et misérable qui vit à part, l'air hostile et farouche. C'était en 40. Hein. Roland souligne d'emblée, dans cette page, le rôle capital qu'a joué le curé doyen de la basilique, d'Espinay. Il écrit ceci. L'intransigeance du curé d'Espinay doit ajouter à la division des classes. Il n'admet pas qu'on n'assiste pas à ses offices. Pourtant, Roland, quand il arrive, ne cherche pas l'affrontement. « Je tâcherai néanmoins, dit-il, de maintenir des rapports courtois avec tous. Je pense que mon ascendance de notaire est un bon atout dans mon jeu. Mon collabrognon m'est aussi un médiateur. Il est le seul de mes livres qu'on apprécie dans les deux camps. » La France du Front populaire est en effet un pays très divisé, en plein désarroi. heureux de vivre, ce sont les congés payés, mais angoissé par cette guerre dont il ne veut pas, fort de l'expérience de 14, mais que les esprits lucides de droite et de gauche jugent inévitable. Enfin, c'est l'époque, n'est-ce pas, 35, où Ray Ventura chantait « Tout va très bien, Madame la Marquise », ça résume un état d'esprit. Roland ne se sent pas à l'aise à Vézelay les premiers temps. Il écrit ceci. Pour le 14 juillet 1938, nous sommes les seuls, ou peu s'en faut, à arborer le drapeau avec la gendarmerie, la poste et les officiels. La ville boude la gueuse. Le soir, la jeunesse qui veut s'amuser doit descendre à Aquin. Le pays est, me dit-on, dans sa majorité croix de feu. Il est dans son ensemble, c'était l'époque, dénué de toute instruction politique. Il ne fait pas de différence entre un journal ou un autre, entre le populaire, socialiste, et Gringoire. Le ton est condescendant, j'en conviens. Et là, on peut se demander la question. On peut se demander si Romain Rolland aime Vézelay. Il garde, c'est évident, la nostalgie de son séjour en Suisse, à la Villa Olga, à Villeneuve, et la présence des Alpes, que ne remplacent pas les montagnes du Morvan. En même temps, il apprécie en esthète et en historien le site, le lieu, etc. Il est notamment sensible à ce qu'il appelle d'admirables paysages japonais. Voici une notation parmi de nombreuses. Une fine brune laiteuse coule au pied de Vézelay en plusieurs rivières, d'où émergent des arbres humectés de vapeurs floconneuses. C'est une caractéristique de ce pays. Et les Vézéliens, que pensent-ils de Roland ? Les visiteurs que Roland reçoit dans sa maison, avant l'entrée en guerre surtout, vont de Thorez et Aragon et Elsa Triolet à la reine, comme je l'ai dit, Elisabeth de Belgique. Ça va des écrivains parisiens jusqu'aux instituteurs modestes, par définition. En ville, on ne sait que penser et on ne sait plus ce qu'ils pensent. En effet, Romain Rolland ne fait plus et ne fera plus de proclamations publiques. Sauf un télégramme en septembre 38, au moment de Munich, pour inviter Daladier et Chamberlain à la fermeté, ce qui scandalise les pacifistes, Giono, Alain, etc. Et puis, en septembre 39, cette fois c'est une lettre à Daladier, le président du Conseil, dans laquelle il invoque Valmy et invite la République en armes à se défendre, ce qui trouble le Parti communiste. Donc il se trouve incompris, c'est pour le moins, de ses amis pacifistes, suspect aux yeux de la bourgeoisie, pro-flandin, comme il dit, chacun reconnaîtra, et trop indépendant pour les communistes. Avec une certaine complaisance, il écrit ceci en 43, septembre 43, plus tard donc. Ma situation est singulière, paradoxale, incompréhensible pour la plupart des simples gens. Allez vous y reconnaître. Pour connaître qu'il émet une certaine complaisance dans cette impossibilité à le situer qui apparaît tout de même dans ce journal. Deuxième thème, l'impossible ou l'impensable défaite. En mai 40, Roland se trouve en Suisse avec Macha. Il écrit « De si beaux jours, un si pur rayonnement de printemps, la Suisse romande a conservé son visage tranquille et pondéré. » Hélas, comme on sait, dans la nuit du 9 au 10 mai, l'Allemagne envahit la Hollande, la Belgique, sans sommation. C'est le brigandage caractérisé, note Roland. Et avec Macha, il rentre précipitamment et de justesse à Vézelay. L'entrée en guerre en juin 40 provoque un exode irrationnel, si vous voulez, pourtant compréhensible. Les gens fuient les combats, ils fuient Paris. Et la débâcle de ces semaines est rythmée par les déclarations de Paul Reynaud dans le fameux, le 21 mai, « Je crois au miracle ». Hélas, bon, Roland observe ce déferlement de civils et de soldats en fuite depuis sa terrasse, et je lis ce texte un peu long, mais extraordinairement frappant. « Depuis l'aube jusqu'à la nuit, jusqu'à l'aube du lendemain, et cela continue tandis que j'écris, à 4 heures du matin, par les deux routes qui montent devant mes fenêtres, un exode monstrueux se poursuit. Tout un peuple fuit. Sans un répit, passe en grondant jour et nuit les camions d'armées et de réfugiés. C'est insensé. C'est une panique irrésistible et elle s'étend par contagion au pays qu'elle traverse. Le soir du 14 juin, toute la population de Vézelay fait ses valises pour fuir le lendemain. Pour ma part, je veux rester. Le pire est à mes yeux de se trouver dans ce torrent de fuite sur les routes. Mais comment tenir tête à une population affolée ? et la faire tenir tête par mon entourage, dont les chefs abdiquent et donnent l'exemple du vertige. Ils notent ceci. La nuit, des centaines de réfugiés, des enfants, des vieillards, campent sur la place au bas de la ville, faute de logement. La défaite est consommée, et le dimanche 16 juin, les premiers Allemands arrivent à Vézelay. Et dans la vision de... Et Romain Rolland a, de cette arrivée des Allemands, une espèce de vision cosmique, comme si c'était une caricature guerrière de sa propre vision de l'humanité en marche. Mais cette fois, ce sont les panzers allemands qui arrivent, avec le cortège sinistre qu'il décrit très bien, comme d'ailleurs l'écrivain Henri Calais, des prisonniers démoralisés qu'on héberge, si je puis dire, dans la basilique. Je lis un texte un peu long, mais qui... un de ceux par lequel Romain Rolland ici se rapproche, à mon sens, un peu de Chateaubriand. Rolland, donc. Dimanche 16 juin. Dès les approches de l'aube, c'est dans la ville un tumulte. On frappe aux portes. Des voix crient dans la rue, des autos partent. De porte en porte, des gens suspects ou affolés hurlent. Évacuation ! La ville va être occupée par l'armée, la DCA s'y installe. Macha, terrifiée, entre chez moi avant 4 heures du matin. « Il faut partir, » dit-elle. La gendarmerie dit qu'elle ne sait rien, mais elle fait partir ses femmes et ses filles. Notre jeune servante, Denise, voit le brigadier pleurant qui dit que les Allemands sont déjà à Avallon. De fait, la gendarmerie détale et les officiers français conseillent à Rolland de partir. Mais il est trop tard. Voici ce qu'il écrit. « Les Allemands sont à Clamecy. Il n'y a plus qu'à les attendre. Je me recouche. » À 9 heures du matin, les premières troupes motorisées allemandes débouchent sur mes fenêtres par la route d'Aquin. Ce sont seulement des éclaireurs, de très jeunes gens sur des motos qui font des signes d'accueil. Puis, une à deux heures après, le gros de la division motorisée. Et c'est après le silence saisissant qui s'est fait depuis 6 heures du matin, quand les derniers fuyards ont disparu, le grondement qui recommence. Les chars allemands qui roulent en flots ininterrompus toute la journée, couvrant les routes, le flot monte de Cernizel-Aquin à Vézelay pour redescendre presque aussitôt sur Saint-Père, Pierre-Pertuis, etc. Les colonnes de poussière qui s'élèvent sur leurs lourdes roues nous désignent leur course au loin, à l'horizon. Ils se précipitent vers Saulieu, Autun, Clamecy. Des hautes de terrasses de Vézelay, c'est un panorama de bataille de Van der Meulen. Je lis Tagore, le poète bengale, dans mon lit. Macha est maintenant presque calmée. Les fuyards de la veille et du matin, refoulés, sont forcés de revenir. La catastrophe étant arrivée, il y a cette espèce de silence qui s'installe. Et ce sentiment général d'étouffement, comme il dit, qu'il a toujours ressenti enfant et qui là prend une dimension historique. Il note ceci, plus d'électricité, plus de radio, plus aucune communication avec l'extérieur. On est enfermé dans la souricière. Silence, indifférence des animaux, seul peut-être notre chien Ali, un berger allemand, qui gémit inquiet. En plus de l'inquiétude, quelque chose que l'animal, Ali, le berger, ne peut pas partager, c'est la honte, ce sentiment de cette étrange défaite, de cet effondrement impensable, de ce ciel vide d'avions français, comme il dit, dans lequel certains verront une divine surprise et la chance d'en finir avec la République. Mais en tout cas, c'est l'effondrement d'un régime. Et il faut lire, mais ce n'est pas le sujet, ce que Rolland raconte de ce qu'a sœur Madeleine a vécu à Dijon, l'effondrement de toutes les autorités de toute nature. Et si on ne garde pas présent à l'esprit cet effondrement, on ne comprend pas bien des choses de la période. Rolland garde le souvenir durable et frappant de ce traumatisme de juin 40. Voici ce qu'il dit de cette abjecte panique qui a balayé des millions de Français, les autorités responsables à leur tête. Une infamie, dit-il.
Je vous rappelle que l'émission Wagon Livre de ce soir est composée d'extraits de la conférence qu'a donnée Jean Lacoste le 10 août 2013 à la Maison Jules Roy. Jean Lacoste qui a publié aux éditions Bartilla le journal de Vézelay de Romain Rolland. Jean Lacoste nous présente la maison de Romain Rolland et surtout celles et ceux qui l'occupaient à cette époque.
On compte la mère de Macha, Madame Cuvillier, qui est plus âgée que Rolland lui-même, elle est née en 1861, qui est désespérée, malade et, semble-t-il, perd un peu la tête. Il y a René Arcos, son éditeur des éditions du Sablier, personnage jovial et profondément égoïste, et qui s'est réfugié avec sa femme chez Romain Rolland, qui a fui le 13e arrondissement. René Arcos a laissé le récit de ses journées passées de juin 40 à Vézelay, et il note une présence mystérieuse, mais on sait bien maintenant qui c'est Rosalie Vecht, l'inoubliable Isée de Claudel dans Le Partage de Midi, et que de Rolland, avec un peu de malice, surnomme Donia Prouez, en souvenir du Soleil de Satin. On sait que Claudel a confié à son vieil ami Rolland le sort de Rosalie, son ancienne maîtresse de Fuzhou en Chine, il y avait 40 ans. Je cite Rolland, « Bel animal, doué pour la vie, mais avec d'insupportables défauts à ses yeux, bavardage et vanité. Mondaine. Macha voit de toute façon en elle une rivale auprès de Claudel. » Il y a aussi sa fille, Louise Vetch, que certains ont connue peut-être ici même, discrète, musicienne, très pieuse, et qui n'a découvert que très tard son lien de parenté avec Claudel, son père. Je ne peux que renvoyer ici au livre de Thérèse Mourleva sur ces deux personnages, même si le livre est assez critique sur Romain Rolland, mais c'est un ouvrage très intéressant. Il y a aussi le peintre Frédéric Dessay et sa femme, que Rolland apprécie et qui sont des amis de René Arcos, une présence discrète et appréciée. C'est intéressant parce que c'est ce peintre qui a fait les trumeaux que l'on voit dans la maison Romain Rolland, une sorte des fruits, des grappes, des choses assez légères. C'était un peintre très délicat. Et puis il y a aussi une servante, Denise, de Carré-les-Tombes, qui est belle comme un Renoir, s'enthousiasme Claudel, mais qui a le malheur de flirter avec les Allemands, à telle enseigne que les Rolland devront s'en séparer. Leur bonne Odette Prévost, qui aura été pour eux si précieuse, n'entre dans le ménage qu'en février 41. Et puis, dans cette maisonnée de fortune, chacun dort où il peut, les matelas sont posés par terre et les tensions se font sentir chaque jour. Viendra s'adjoindre d'ailleurs plus tard une certaine Louisette, une belle-sœur, disciple de Gandhi, un peu folle. La cohabitation entre toutes ces personnes, toutes ces dames, est un peu difficile. Et Rolland, qui dort mal, écrit le matin dans son lit, en tentant de préserver sa quiétude et ses biscottes. La maison, en outre, au fil de l'occupation, va recevoir nombre de visiteurs de marque, très divers, qui arrivent dans la discrétion et qui sont filtrés par Macha. Je cite simplement ces noms, name dropping, comme on dit dans certains milieux. Il y a Le Corbusier, Jean Badovici, l'architecte, Paul Éluard, Jeanne Mortier, la secrétaire de Théard de Chardin, qui va intéresser Rolland, et qui vient avec des pèlerins à la T41, très catholique, très pétainiste apparemment, très dévoué à Rolland, trop peut-être, enfin Macha ne l'aime pas non plus. Citons aussi l'auteur dramatique Charles Wildrak et son épouse, la bavarde Rose, la sœur de Georges Duhamel, Zervos, Bataille, un bref moment, Claudel, là la rencontre entre Claudel et Rolland a mérité un livre entier. La porte de Rolland, donc, de la maison Zervos, est ouverte largement, y compris à des gens plus simples, comme les Bouillets de Migène, comme à des personnages suspects, comme en fait naître l'époque.
Sortons de la maison de Romain Rolland pour découvrir le Vézelay sous l'occupation allemande, tel que le percevait l'écrivain Romain Rolland.
Le quartier de Romain Rolland, c'est le bas de Vézelay, n'est-ce pas, non loin du champ de foire. Il ne quitte très peu. Et ses amis, ses connaissances fréquentent les hôtels de la place, Cheval Blanc, tenu par les Jaussiers, c'est là que descend Éluard, Le Corbusier. Et puis il y a l'hôtel de la Poste et du Lion d'Or, l'hôtel d'Anguy, comme dit Romain Rolland, plus cher, mais et qui est d'emblée réquisitionné par l'état-major allemand. Et le 17 juin au soir, c'est-à-dire le lendemain de l'arrivée des Allemands, une scène étrange, et je trouve très significative, d'un pays abattu, en fait. Les officiers français soupent avec les officiers allemands. C'est la grande illusion, de nouveau, mais cette fois avec la Wehrmacht. Plus loin, il y a une boulangerie qui se trouve à droite, dans l'ancienne église Saint-Étienne des Affectés. C'est celle de Léon Crochet, un ami de Marcelot à Clamcy et de Grasset à Brèves, et que l'on voit sur cette photo désormais bien connue de Rolland avec les vignerons que vous avez peut-être aperçus dans différentes circonstances. Voici ce que Roland dit de ce Léon Crochet. C'est un gros homme, rouge, rude socialiste et mangeur de prêtres. Petit-fils d'un proscrit du 2 décembre, qui tient tête hardiment à l'archiprêtre de la basilique et à toute la réaction du pays, dont il sait se faire craindre et respecter. C'est ce Léon Crochet, ce boulanger, qui en janvier 1945 transportera le corps de Roland à Clamecy dans la camionnette de ses tournées, parce qu'il était le seul à avoir l'autorisation de circuler. Dans la rue, plus haut, avant la maison Roland, un magasin, c'est celui des sœurs Duvernois, Roland et Isabelle, qui vendent des livres, du tabac, des journaux, des bonbons. Oui. À l'arrivée des Allemands, en juin 1940, Roland dit « Elle s'enferme malade de peur ». Mais, d'après lui, le 20 août 1944, elles seront arrêtées par la résistance pour leur pro-germanisme provoquant. On peut changer. La gendarmerie se trouve en face de la maison de Romain Roland. Sauf erreur, c'est la poste. Elle est vite occupée par les Allemands et les gendarmes détalent. Romain Roland est aux premières loges pour observer ce qui se passe dans la gendarmerie, et la gendarmerie est elle-même aux premières loges pour observer ce qui se passe chez Roland. Ils reviennent à une date que je ne me saurais déterminer, vers 1942 probablement. Le brigadier collabore avec les Allemands, sa fille aussi à sa manière, et les autres gendarmes sont passés, eux, à la résistance. En léger retrait par rapport à la maison de Roland, à droite en montant, la demeure du notaire, maître Picard et son épouse. Roland rend de menus services à ses voisins sympathiques qui seront très actifs dans la résistance et dénoncés aux Allemands. Un peu plus loin, la belle maison de la rue du Bochard est celle du docteur Pillon, le médecin de l'hôpital. En juin 1940, elle est occupée par la commandanture et Roland note « la bannière à la croix gammée flotte sur les murailles du jardin ». Le docteur est un ami de Romain Roland, une sorte de médecin de famille, de bon conseil, bon catholique. Il approuve pourtant les anciennes révoltes de la commune contre les abbés. Et il dit « il se sent un vieux Vézélien qui a dans le sang le besoin de la contradiction ». C'est peut-être encore toujours un peu vrai, je ne sais pas. Il donne aussi des recettes pour accommoder les corbeaux. À la mairie, en juin 1940, le maire est Pierre Sestac. Il n'est pas de notre bord, avait jugé Romain Roland à son arrivée à Vézelay. Percepteur, maire depuis 1927, ce, je cite, courtois et fin béarnais, ne déplaît pas finalement à Roland, qui s'entretient avec lui en juillet avec confiance des difficultés de ravitaillement des premiers jours. Ce sont de bonnes relations, mais malheureusement, Sestac va décéder en septembre 1940. Il sera remplacé ultérieurement à la mairie par le pharmacien Pierre Rabigaud, dont la femme et la fille seront dénoncées par un couple de, je cite Roland, pacifistes belliqueux. Un oxymore, comme on dit maintenant. L'horloger Eumène et sa femme, personnage bien digne du Corbeau, le film de Georges Clouzet. Ce sont des voisins de la mairie rue Saint-Pierre. Enfin, la basilique, qui n'est fréquentée assidûment que par Macha et par Claudel. Roland s'abstient de rendre hommage aux reliques de Sainte-Madeleine. Je ne suis pas sûr qu'il soit monté plus d'une fois à la basilique. C'est l'empire du doyen d'Espinet, avec son austère école de garçons de la maison Saint-Bernard. D'Espinet tonne en chair apparemment contre la Troisième République, contre les francs-maçons, les instituteurs laïcs, mais il ne manque pas de caractère quand il s'agit de défendre son église contre les tentatives d'occupation néo-païennes qui fleurissaient à l'époque. On le soupçonne, on l'accuse d'avoir dénoncé des Vézéliens. Mais en tout cas, Roland aime à discuter avec lui, disons, des choses de la religion, de Saint-Augustin, du péché, de l'histoire de Vézelay. En revanche, en contrebas, la Cordelle demeure pour Roland, même s'il n'y va pas très souvent, un lieu sacré, avec la croix de Saint-Bernard et l'oratoire des premiers franciscains. Saint-Bernard, Saint-François, il les associe curieusement dans une belle page du 20 août 40, c'est-à-dire tout de suite après la défaite. Qu'est-ce que c'est? L'esprit de croisade, de combat, c'est Saint-Bernard, mais aussi l'esprit de paix, ce sont les franciscains. Et puis enfin, pour terminer cette petite géographie rolandienne de Vézelay, toujours susceptible d'être corrigée par les Vézéliens, il faut faire une mention particulière à l'écart de Vézelay pour Fontette, dans la commune de Saint-Père, pour un vigneron qui s'appelle Lazare Defer. paysan, dit Roland, d'esprit robuste. Roland aime son bon sens, sa culture, ses positions très avancées sur l'URSS, etc. Accessoirement aussi, il apprécie son vin, le Clos des Ducs de Bourgogne, que lui a fait connaître, entre autres, Henri Petit.
Suite de la conférence de Jean Lacoste, qui a pour thème l'occupation de Vézelay, dans le journal de Romain Rolland. Les Allemands de la Wehrmacht réquisitionnent des logements à Vézelay, et à chaque fois, il faut négocier avec les vainqueurs pour préserver la demeure principale. C'est la tâche de Macha, la femme de l'écrivain, qui doit concéder la maison dite du jardinier, qui sera livrée aux Allemands. Le clos, en contrebas, c'est-à-dire ce qui est occupé actuellement par le centre Jean-Christophe, n'échappe pas non plus à la réquisition. Une cinquantaine de chevaux y camperont sous les tilleuls. Et finalement, ce sont les odeurs équines de cette occupation que Romain Rolland associe un moment à la présence allemande à Vézelay.
Les Allemands sont donc tout proches des Rolland et de ses hôtes dans la maison du jardinier. Il faut se méfier d'un propos, d'un livre, d'une émission de radio. Et Rolland, les Rolland, sans avoir de rapport avec eux, note au fil du temps les différences entre ces visiteurs plus ou moins encombrants. Il y a les SS, sanglés, hostiles. Il y a les Troufions, polis et rustiques, qui ne veulent pas déranger. Il y a les soudards malpropres qui seront envoyés sur le front de l'Est. Et puis il y a de beaux jeunes gens voués à la mort, pour lesquels Rolland et Macha ont presque des sentiments, comment dire, de sympathie, de compassion. Ce sont des adolescents, en fait. Les Allemands sont, entre guillemets, corrects. C'est le mot de l'époque. Cette espèce de soulagement illusoire dans la défaite. Parce qu'il faut se rendre à l'évidence. Rolland a beau faire d'exhiber sa carte de la société Beethoven, de la société Mozart, de la société la Goethe-Gesellschaft, etc. Les Allemands de la Wehrmacht s'en fichent. Ce sont des barbares, des vainqueurs, des occupants, et ils le resteront. Cependant, certains officiers souhaitent rencontrer Rolland en tant qu'auteur de Jean-Christophe et comme chantre, en 14-18, de la réconciliation franco-allemande.
En attendant cette réconciliation, les difficultés sont bel et bien là. Écoutons Jean Lacoste évoquer la vie du prix Nobel de littérature qui n'est pas exempte de restrictions et de réelles difficultés au quotidien.
Les difficultés de la vie quotidienne, la réalité est là. D'emblée, la vie quotidienne devient difficile du fait des réquisitions, de la spéculation qui nourrit le marché noir. Et ce qui est intéressant, c'est que Rolland, tout prix Nobel qu'il est, partage cette réalité. Fin 40, par exemple, je prends un exemple parmi d'autres, c'est évidemment nombreux, il s'interroge sur un coup catastrophique. Ordre militaire allemand. Tous les prisonniers français dans la région, même ceux qui avaient été renvoyés dans leur foyer pour travaux nécessaires de la ville et des champs, sont convoqués demain matin 10h pour être internés en Allemagne ou dans les camps. Toute la vie en sera paralysée. Saisissement, douleur, indignation de la population. Rolland s'étonne quelle façon de travailler à la collaboration. Et il parle, je cite, de stupide méconnaissance des réactions psychologiques de la population. Est-ce à la hauteur? À quoi bon rendre solennellement à la France les cendres de l'aiglon aux invalides, se demande-t-il, quand on impose ces mesures militaires brutales et aveugles? Hélas, ces mesures militaires brutales et aveugles, elles vont se multiplier. Par exemple, au printemps 41, la commandante Tour, par un arrêté, demande à Vézelay, aux habitants de Vézelay, de livrer avant demain 500 draps. Mais Rolland écrit, mais il n'y a pas 400 Vézéliens. Un tiers seulement, tout au plus, possède plus d'une paire de draps. Nous en avons, pour notre part, juste une paire de rechange pour chacun. Où s'arrêteront les exigences? Printemps 41. Et en 42, dans l'été 42, voici qu'on prend les chevaux de la boue, qui doivent aller à Auxerre. Et Rolland note, les femmes pleurent. Comment feront-ils pour retourner leur champ? Et ces chevaux étaient de vieux compagnons. Se déplacer devient aussi de plus en plus difficile, même en zone occupée, notamment entre Dijon, où habite Madeleine, la sœur de Rolland, et Vézelay. Quand aller de la gare de Sermizel à Vézelay, ça ne va pas de soi, déjà à l'époque. On fait une partie du chemin à pied quand la voiture à gazogène des Netherpeller à Aquin n'est pas disponible. ou quand le car de Dijon, qui lambine, asphyxie ses voyageurs. Pour aller à Paris en 1943, selon Romain Rolland, il faut compter de 3 000 à 6 000 francs, soit, si on regarde les calculs de l'INSEE, près de 1 000 euros, ce qui m'étonne. Enfin bon, pour un trajet en taxi avec l'entrepreneur Bojo Strugar au marché noir. Et Rolland a besoin de se rendre à Paris pour toutes sortes de raisons. L'information, elle est rare et biaisée. Rolland reçoit la presse parisienne, Collabo, Comédia, Les Nouveaux Temps de Jean Lichair, et puis La Gerbe de son ami Alphonse de Chateaubriand, avec des pages culturelles où figurent, quand on les feuillette aujourd'hui, tous les grands noms de la littérature de la vie parisienne, mais qui sont aussi marqués par un antisémitisme obsessionnel qui vous salit rien qu'à les lire. Reste la radio. Radio Vichy, qu'il écoute, mais qu'il juge plate, ampoulée, provinciale. Il note que chaque jour, on sonne le clairon dans ce pays défait. On célèbre les fastes de la guerre. Il s'exclame. On dirait que cette déroute à Pertalène de juin 40 fut une suite d'exploits triomphants. Il se fie plutôt à Radio Sautin, c'est-à-dire l'émetteur de la radio suisse romande, à Radio Londres, quand il peut, à Radio Moscou, où il entend son ami Jean-Richard Bloch, et que des Allemands, des soldats allemands, Dieu merci, prennent pour une radio italienne. Mais que faire quand flanche une des lampes du poste de radio? Le silence pèse et inquiète. L'alimentation, le beurre, les œufs, les pommes de terre, la viande sont devenues des denrées rares. Par exemple, Romain Rolland note que l'œuf se vend 4 francs pièce à Aquin, ce qui correspond à 75 centimes. Je vous laisse juger si c'est excessif ou pas. Et le prix, il note dans la même page que le prix de pension chez Madame d'Anguy est de 150 à 180 francs. Ce qui fait, toujours selon les calculs de l'INSEE, quelque chose comme 30 francs, ce qui me paraît là pour le coup bon marché. Et il note l'hôtel est toujours plein. Par exemple, il apprend que le petit hôtel Saint-François, qui était dans le Haut-de-Vézelay, a réussi à se procurer du veau, mai 41. Et il note une salle voûtée dans la vieille maison, bon déjeuner, soufflé, veau en casserole, fromage et entremets au chocolat pour 13 francs. Plus grave, cependant, la pénurie d'eau. Début 43, Vézelay reste sans... Je cite Rolland, là. Vézelay reste sans eau pendant 2 mois. La machine qui faisait venir l'eau d'Aquin est cassée. Les citernes sont taries. Un à un, les puits publics s'épuisent. Le dernier où l'on puisse puiser, tout en haut de la colline, près de la basilique. Il est bien connu. Notre Odette va tous les 2 jours à Aquin chercher une bonbonne d'eau dans une petite voiture. Impardonnable incurie de la municipalité. Conséquence, naturellement, le typhus rôde. Et pendant ce temps-là, Odette Prévost, la petite bonne qui est entrée à leur service en 41, efficace et dévouée, parcourt la campagne à vélo pour ravitailler les Rolands. Mais malheureusement, par exemple, en mai 42, il découvre qu'elle a, pour faire la cuisine, elle a brûlé une partie, de 3/4 du bois de chauffage de l'hiver prochain. Et Rolland se désole. Ce sera pour moi la mort sans phrase. Nous aurons beau économiser désormais, ne faire qu'un repas par jour, d'ici à octobre, c'est en mars, la cuisine aura dévoré le peu qui nous reste. Et l'on est environné de forêts. C'est Macha, enfin Marie, son épouse, Koudachev, celle qu'on présente, qu'on a présentée comme l'espionne de Staline ou je ne sais quoi, qui assure le train de la maison. Et Romain Rolland, lui rend hommage. Je cite ce texte. L'activité de Marie est incroyable. C'est elle qui veille aux multiples charges de la lourde maison. Bien plus, qui les exécute pour une grande part. Chauffage central, feu de bois des cheminées, poulailler, clapier, elle élève des lapins en effet, course de ravitaillement, à Aquin, par tous les temps, 20 autres soins domestiques, c'est elle qui fait tout. Et elle n'a point de cesse que je ne sois nourri suffisamment. À ses dépens, car, malgré que j'en ai, elle m'oblige à prendre sa part de beurre, de viande. J'en ai chagrin et les morceaux m'en restent souvent dans la gorge. Mais si je refuse, elle tempête.
Si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous êtes à bord de Wagon Livre, la seule heure littéraire sur les ondes en Bourgogne. Et voici, si vous le voulez bien, un nouvel intermède.
moque, comme on s'allait mal sur les starting blocks. Gal, 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 là c'est du mastoc, c'est pas du Mansart, c'est de la merloc. Ce sera pas gal, ok, je suis ad hoc. J'aurai le beau cigare en or, les pare-chocs. Dès la rocade, j'ai senti le choc. Faut rentrer tard, tard dans la ligne de coque. Un nouveau départ, solide comme un roc. Une pluie de dollars, ici, nous gagnons. C'est l'enfant de l'art, c'est l'œuf à la coque. À moins qu'on lascar, au détour d'un bloc, et son trier gare me découpe le lard. Passons Jean Bondurant.
De la diffusion de la conférence consacrée à l'occupation à Vézelay dans le journal de Romain Rolland, une conférence proposée par Jean Lacoste le 10 août 2013 à la Maison Jules Roy à Vézelay. Un événement littéraire proposé conjointement par l'association Romain Rolland et par l'association des Amis de Vézelay. Alors, dans ce climat de réquisition, de pénurie et d'incurie, de marché noir aussi, les dénonciations prospèrent comme une maladie honteuse à Vézelay comme ailleurs.
Rolland dit « Les Allemands eux-mêmes manifestent leur dégoût pour la pluie de lettres anonymes qui leur dénoncent des concitoyens français. Cette ignominie ne diminue point, elle est devenue une maladie honteuse qui ronge la France comme la syphilis. À telle enseigne qu'en janvier 42, semble-t-il, à son cloche, le crieur de Vézelay proclame un avis du préfet de Lyon qui dénonce le nombre excessif de lettres anonymes venues de Vézelay. L'occupation proprement dite, je dirais les réquisitions de logements, la présence des Allemands, semble cesser au printemps 42, mais la répression n'en est que plus violente. Le sort des quatre jeunes gens, des normaliens de l'école normale d'instituteurs, fusillés à Dijon le 7 mars 42, malgré les démarches entreprises, bouleverse Rolland. Mais combien d'autres exemples de fusillés? Le pouvoir militaire règne sans partage. Alors, déplorer le manque de psychologie des Allemands dans la collaboration, ce n'est plus suffisant, ce n'est plus à la hauteur. Et se pose, dernier thème, la question de la perspective politique morale dans le journal. Il y a une subjectivité dans ce journal qui en fait le prix, qui surprend et qui peut choquer. Il y a une certitude sur laquelle il faut revenir, c'est qu'il est éloigné de la politique, déçu de la politique. Il n'est plus un compagnon de route comme il le fut dans les années 30. Ce qui l'importe à ce moment-là, ce sont les préoccupations spirituelles. Alors, il est possible que dans les tout premiers jours de l'armistice et de l'occupation, il ait eu, on n'en a pas de preuve, mais un préjugé favorable envers le maréchal Pétain, parce que celui-ci était populaire auprès des anciens combattants pour avoir ménagé les troupes en 17. Et puis, il considère que d'un mal, comme cette défaite écrasante, peut sortir un bien. C'est une pensée un peu dialectique qui est à l'œuvre et absolument pas une adhésion à la Révolution nationale. Mais, le 15 août 1940, il écrit « Du fond de l'épreuve, mon optimisme se réveille, c'est-à-dire ma conviction qu'une force mène, en dépit d'eux, les hommes et les États vers un progrès certain de l'humanité qui les dépasse. Et je crois même que de l'écrasante défaite, la France du maréchal Pétain pourra ressurgir plus saine et rajeunie. » En historien, il se souvient peut-être ici, par exemple, de la défaite de la Prusse en 1806, qui avait été l'occasion d'un rebond dont il voyait les conséquences ultimes dans juin 40. Mais en tout cas, très rapidement, il critique le vote des pleins pouvoirs, il critique la mort de la Troisième République, enfin des nuances, mais la contestation de l'œuvre de la Troisième République. Il n'a que mépris pour le régime de Vichy et ce qu'il appelle la terreur blanche larvée qui est mise en place. Et puis ce climat d'opérette, l'adulation du maréchal, la réaction cléricale, je cite, « toute suintante de papelardise, de cafardise bête, doucereuse et fielleuse ». Il est vrai que le régime a interdit ses ouvrages dans les écoles normales. Cela dit, il est aussi hostile au général de Gaulle, du moins au début, et à ce qu'il appelle son fanatisme orgueilleux. Je cite, ce sont des phrases fortes, on ne peut pas contourner, « l'insensé ouvre la porte de la guerre civile la plus atroce ». Encore une fois, Roland, fort de l'expérience de l'Espagne et puis de son, de ses connaissances d'historien, n'est-ce pas, des guerres de la religion, etc., ne veut éviter que la guerre civile s'ajoute à l'humiliation de la défaite. Mais enfin, il rejette aussi bien, d'ailleurs, le terrorisme des communistes, les attentats et les cycles de représailles contre les civils. Alors, la collaboration parisienne avec l'Allemagne, c'est plus compliqué. Roland, en août 40, le 28 août 40, plaide pour, je cite, « une loyale discussion avec le vainqueur », incitant à une sorte de réalisme. Bon, la date est importante, on est avant Montoire, n'est-ce pas? Et il est certain, il est clair, il est indiscutable, qu'il se tient parfaitement à l'écart des compromissions publiques du milieu littéraire et artistique de Paris, en raison notamment de l'antisémitisme, qui est pour lui un élément essentiel, enfin de rejet, bien entendu. Cela dit, il continue à accueillir Alphonse de Chateaubriand, son vieil ami, lequel publie, comme on sait, dans La Gerbe, son journal financé par les Allemands, ce que Roland appelle d'abominables articles antisémites. C'est déshonorant pour Chateaubriand, dit-il, mais il défend cette amitié persistante. Il dit « Qu'y faire ? Je ne suis pas de ceux qui sacrifieront jamais une amitié vraie à une idée. » Voilà, bon, au moins jusqu'en 42, parce qu'après ils rompent. Mais en échange, le pseudo-aristocrate qui était Alphonse de Chateaubriand fournit à Roland des renseignements intéressants qui se retrouvent dans le journal sur la vie politique à Vichy, sur la chute de Laval, sur la personnalité Pétain. Une grande ambiguïté, n'est-ce pas? On comprend bien. Il y a chez Roland un rejet clair du régime nazi, voire une répulsion qui date de 1933 et qui n'est pas discutable. Mais en même temps, il garde de l'admiration pour ce qu'il appelle la vieille Allemagne. En pleine occupation, il lit Goethe, il joue du Bach, du Beethoven. Il nourrit l'illusion, mais peut-être prophétique, hein, d'une éventuelle réconciliation avec l'Allemagne. Il a tort d'avoir raison, peut-être un peu trop tôt. Mais ce sont des ambiguïtés caractéristiques de l'époque. À mesure que le sort de la guerre bascule inexorablement, fin 41-42, le régime de Vichy, comme on sait, avec le retour de Laval, s'enfonce dans la collaboration et la répression. Jusqu'au moment où, en janvier 44, c'est Darnand, le chef de la milice, qui finalement obtient, en matière de sécurité, les pleins pouvoirs. Et c'est à cette époque que Roland fait un bilan intéressant de sa situation avec Marie. Nous causons avec Marie de la vie menacée que nous menons depuis 30 ans. Elle, pendant l'hiver 17-18, à la campagne, en Russie, pendant 6 mois, attendant chaque jour, chaque nuit, l'arrivée des pogroms qui mettaient à sac les châteaux et les propriétés alentour. Et depuis, la tranquillité n'est jamais rentrée, les nerfs sont toujours restés tendus. Et moi, depuis 1914, J'ai vécu une existence de nomade, portant avec soi d'hôtel en hôtel ce qu'il avait pu sauver de ses papiers et toujours préoccupé de leur trouver un abri sans jamais y réussir. Nos vies, nos souvenirs ont été constamment à la merci du jour et de l'heure. Un texte très important, ne serait-ce que pour comprendre pourquoi il a veillé à déposer son journal à la fois dans une bibliothèque universitaire de Bâle et à Paris à la bibliothèque nationale. Ce souci de préserver ces petits carnets, comme je le disais tout à l'heure au début, ces petits carnets si fragiles et si modestes. Voici bien sûr la libération, il a des contacts avec la résistance, c'est évident, avec les FFI d'obédience communiste, par exemple, qui l'aident à se rendre à Paris en voiture. On a vu que se rendre en voiture, c'était quelque chose d'un peu lourd financièrement. Mais il n'en pense pas moins. Voici ce qu'il écrit. L'atmosphère morale en France est déplorable. Dans l'ensemble de la population, aucun sentiment exaltant. Tout est à base de haine, de jalousie, de vengeance. Les ressentiments particuliers se couvrent de ces prétextes généraux. Il craint toujours les représailles, les actions irréfléchies, comme par exemple l'attaque de la colonne de blindés allemands qui se replie en juin 1944. Il ne porte pas un jugement très exalté sur cet épisode. Bon. Quant à l'épuration, elle ne satisfait guère son sens de la justice. Un exemple, le 20 août 1944, les résistants viennent prendre plusieurs Véséliens connus pour leur pro-germanisme provoquant. Nos voisines, les vendeuses de journaux, les demoiselles du Vernois, l'horloger eux-mêmes et sa femme, ses pacifistes belliqueux, le coiffeur, la femme du brigadier et ses enfants. Et cette notation, la foule accueille de ses rires et de ses huées les malheureux qu'on emmène. Le brigadier s'est éclipsé à temps, ses enfants ont été pris comme otages. Quant au reste de la brigade, ils ont passé aux résistants. La gendarmerie est complètement close. Et pourtant, les malheureux, c'est frappant quand même comme expression. À Clamcy, par exemple, il est indigné par le sort qui est réservé à l'industriel Brulfer. Et puis, je passe très rapidement, à Vézelay, il décrit cette scène qui est bien connue, n'est-ce pas, de l'arrestation du curé d'Espinay la veille de l'Assomption par des résistants, et puis quelques heures après, il est relâché en bas devant l'hôtel d'Anguy, avec le front marqué de la croix gammée à la pointe, une sorte de tatouage. Le curé remonte par les jardins particuliers, et il rentre chez lui, et le lendemain, 15 août, dit Roland, sans juger, en décrivant, toujours en chroniqueur, n'est-ce pas, de la violence du monde. Le lendemain 15 août, il dit les offices et son sermon ne contient aucune allusion à ce qu'il a subi. Les gens remarquent très bien l'empreinte au front, elle est encore saignante. Alors, j'en viens à ma conclusion. Vézelay sous l'occupation. Roland donne dans ce journal le portrait que je crois vivant et en tout cas détaillé d'un microcosme, Vézelay, qui est à l'image d'une France humiliée, affaiblie, traumatisée, qui ne sera qu'en apparence réconciliée et victorieuse avec le général de Gaulle. Roland se pose avec Aragon et le père Michel de Pailleret, à la fin du journal, un dominicain. La question, peut-on réunir communisme et catholicisme dans un même idéal de fraternité? Est-ce une synthèse impossible, impensable? Aragon cherchera à lui donner une traduction concrète en proposant dès janvier 1945, alors que Roland vient de mourir, de le faire entrer au Panthéon. Ce fut un échec parce que le Figaro proposa Peggy, le MRP Bergson, bref, un afflux de candidatures, comme ça peut se voir. Roland reste enterré à Brève, comme il le souhaitait. De cette manière, il nous reste plus proche, si l'on veut, ni héros de la résistance comme un Jean Moulin ou comme un Brossolette, ni salaud comme Céline et ceux de Sigmaringen. Il reste un honnête homme, un grand écrivain qui ne s'est pas compromis, un chroniqueur loyal qui a cherché à comprendre, qui a cherché à surmonter quand il le pouvait la haine, qui a cherché à voir loin et chercher des raisons d'espérer. L'espérance. Dans son dernier livre sur Beethoven, publié de manière posthume en 1945, qui s'appelle « Finita Commedia », aux éditions du Sablier de René Arcos, Roland fait un aveu singulier, et ça sera ma dernière citation. En ces trois jours, en ces trois nuits de juin 40, où s'écoulait, sur les routes entrelacées autour de la terrasse de Vézelay, le flot compact de la déroute et ensuite, dans la poussière ensoleillée, le grondement de l'invasion, dirais-je le compagnon qui m'est venu. Dans ma tête lasse et martelée par le ronflement ininterrompu des cavaleries motorisées, sous la menace de l'ennemi, surgit le beau chant, l'adagio du concerto en mi bémol, c'est-à-dire le concerto empereur de Beethoven. Et ce concerto, qui apporte à Roland paix et clarté dans ses heures tragiques, est écrit par un musicien allemand de Bonn, alors que des troupes françaises, Roland dit la soldatesque de Napoléon, bombardent et occupent Vienne en mai 1809. Alors, chercher dans ce qu'il y a de meilleur venu d'Allemagne, dans ce chant de triomphe, comme dit Beethoven à propos de son concerto, un remède et une consolation face à ce qu'il y a de pire venu d'Allemagne, c'est un geste qui relève effectivement de cette petite espérance dont parlait Peggy. Je vous remercie de votre attention.
C'était dans sa quasi-intégralité la conférence donnée par Jean Lacoste sur l'occupation à Vézelay dans le journal de Romain Rolland, un journal que vous pouvez vous procurer en librairie aux éditions Bartilla. Une conférence enregistrée le 10 août 2013 à la maison Jules Roy à Vézelay et organisée conjointement par l'association Romain Rolland et par l'association des Amis de Vézelay. Je remercie d'ailleurs leurs présidents respectifs, Martine Liégeois et Pierre Maurice. Avant de vous faire partager le coup de cœur de notre libraire partenaire, je vous propose d'entendre Sylvie Ricard de la librairie Plumes et Images de Tonnerre nous présenter le festival Le Monde des Bulles et de l'Imaginaire qui se tiendra les 28 et 29 septembre prochains au Mont-Saint-Sulpice, non loin d'Auxerre et de Migennes. Voici Sylvie Ricard.
Je précise que c'est la troisième année que ce festival de la BD a lieu au Mont-Saint-Sulpice, dans l'Yonne, c'est à côté de Migennes. L'entrée est à 1 euro, gratuite pour les enfants. Les horaires sont le samedi de 10h à 12h30, avec dédicace des auteurs de 14h30 à 18h30, et le dimanche toute la journée de 10h à 18h. Le thème cette année est le monde de Pif Gadget. Nous aurons un programme particulièrement intéressant, plus de 20 auteurs en dédicace, et je précise que tous ces auteurs ont collaboré à Pif Gadget du temps de son existence, bien entendu. Il y aura aussi une exposition de planches et dessins originaux, une tombola, un atelier BD et exposition de gadgets. L'invité d'honneur est Philippe Plugui, qui fait les bandes dessinées Silvio et Percevant. Je ne peux pas les citer tous, bien entendu, sauf quelques-uns, par exemple Yannick, Camp, Carly et Nicolas Tabary, qui dessine Is No Good, qui viendra représenter son père, collaborateur de Pif Gadget, bien entendu, mais malheureusement, il est décédé en 2011.
Et puis, il y a aussi le local de l'étape.
Ah, il ne faut pas l'oublier, Christian Flamand, bien entendu, qui a travaillé à Pif de 1972 à 1980. On vous attend nombreux au Mont des Bulles.
Merci Sylvie Ricard, donc de la librairie Plumes et Images à Tonnerre. Je rappelle donc le festival Le Mont des Bulles, c'est au Mont-Saint-Sulpice, samedi 28 septembre, dimanche 29 septembre prochain. On peut avoir plus d'informations à partir d'un moteur de recherche. On tape Le Mont des Bulles et puis on arrive sur un blog. Et puis nous savons également qu'il y a une page Facebook, Le Mont des Bulles. Donc réclamez cette page pour être ami avec l'organisation de ce festival 28 et 29 septembre prochain. Bonsoir Sylvie et merci pour ces précisions.
Merci à toi Yannick. Au revoir.
Au revoir Sylvie. Dans Wagon Livre, la culture est avant tout un plaisir, un sourire, une ouverture sur le monde, un approfondissement, un courant d'air qui fait souffler l'esprit. Eh bien, si ce courant d'air peut vous aider à donner un sens à la vie, tant mieux. Accessible à tous, fuyant la crise, la culture est le dernier luxe qui nous reste. Et nous, dans Wagon Livre, notre luxe, c'est le coup de cœur de notre libraire partenaire chaque mercredi. Et on est gâtés et on accueille donc Evelyne Levallois de la librairie L'Autre Monde à Avallon. Bonsoir Evelyne.
Bonsoir Yannick, bonsoir à toutes et à tous.
Alors quel est donc les coups de cœur, parce qu'il y en aura deux ce soir, deux coups de cœur pour les auditrices et auditeurs de Wagon Livre.
Pour ce soir, j'ai choisi un livre de rentrée littéraire, Esprit d'hiver, de Laura Kazishke, et on enchaînera avec un poche de la rentrée littéraire dernière, un livre qui est passé, à mon avis, un peu trop inaperçu, et donc j'aimerais remettre en lumière ce soir. Mais commençons d'abord avec Esprit d'hiver, de Laura Kazishke. C'est un des grands livres de cette rentrée, hein. C'est vraiment parmi les livres à part ratés. Nous sommes le jour de Noël, Oli se réveille fort tard ce dimanche de Noël, et ça va être la course toute la journée. Il faut préparer le réveillon, Eric, son mari, doit partir à l'aéroport au pas de course chercher ses parents, tout va se tendre d'un coup, il y a la tempête de neige qui se lève, Eric qui reste coincé à l'aéroport, les invités qui, petit à petit, au fil de la journée, annulent leur venue, il y a Tatiana, leur fille, qui est une fille adoptive, qui est ingérable aujourd'hui. Il y a aussi le rôti qui a un mal fou à cuire. Enfin, voilà, les choses ne vont vraiment pas bien pour Oli. Les éléments sont contre elle. La tension monte dans la maison qui est cernée par la neige. Le doute s'installe dans la tête d'Oli. On se rend compte au bout d'un moment que le doute était là depuis un moment déjà, hein. Et ce huis clos avec une ado assez capricieuse, ce réveillon qui s'effrite peu à peu. Tout ça met Oli vraiment à rude épreuve. Bon, je vous raconte pas la fin, mais vraiment, c'est un roman très très fort. On est vraiment dans un huis clos. Vous ne sortirez jamais de cette cuisine. C'est vraiment terrible.
On en rappelle peut-être le titre,
à moins que tu aies encore... Esprit d'hiver, de Laura Kazishke. Ce que je voulais dire, c'est comme souvent chez Kazishke, plus son roman est court, plus il est tendu, hein, plus il est implacable. Et d'autre part, pour ajouter sur Kazishke, je pense que c'est une des plus grandes romancières américaines vivantes. Elle joue beaucoup avec les codes romanesques. Là, vraiment, c'est du grand roman.
Merci Evelyne pour ce premier coup de cœur. Alors, un coup de cœur cette fois-ci, pour un petit poche dans la collection Point du Seuil, d'un auteur né en 1947 en Guinée, c'est Tierno Monenembo. C'est bien cela. Et le titre de ce roman, Le terroriste noir.
Oui, donc roman qui était paru l'an passé à la rentrée, qui était basé sur l'histoire vraie d'un tirailleur sénégalais, enfin guinéen, mais à l'époque on disait sénégalais pour tout le monde, c'était plus simple. Tirailleur qui a été fait prisonnier par les Allemands, qui réussit à s'évader et qui va se cacher dans un petit village des Vosges, où il meurt de froid, littéralement, quasi. Il va être récupéré dans le village, il va être adopté par les habitants, ils vont le cacher des Allemands. Ce jeune noir, qui est très très beau, séduit toutes les femmes du village. Il monte un réseau de résistance, les Allemands lui retombent dessus. Enfin, vraiment, du roman d'aventure, du roman historique, une très belle langue, classique. Moi, je trouve que c'était un des très beaux romans de la rentrée dernière, et qu'il a eu aucun prix, malheureusement, mais c'était un très bon livre d'histoire.
Donc on rappelle le titre de ce roman, Le terroriste noir, de Tierno Monenembo, c'est en collection Point Seuil. Evelyne, on te retrouve la semaine prochaine pour un autre coup de cœur.
Bonsoir Yannick, bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir Evelyne. Avant de terminer ce 128e numéro de Wagon Livre, quelques informations culturelles que nous égrenons comme chaque semaine. Tout d'abord, ça se passe à Saumur en Auxois, c'est à la librairie de La Poste. Alain Artelot dédicacera ses ouvrages, notamment Une nuit au pavillon des demoiselles, c'est un polar, et Lily et l'étoile noire, c'est donc ce samedi de 14h à 18h, c'est à Saumur en Auxois, et c'est à la librairie de La Poste. Renseignements auprès du libraire au 03 80 97 13 72. Et puis le vendredi 20 septembre prochain, à 18h30 à Vézelay, maison Jules Roy, une soirée franco-allemande est prévue, avec l'auteur actuellement en résidence à la Maison Jules Roy. L'auteur en résidence, c'est Eva Polapik, et elle vous proposera des lectures en allemand et en français. C'est mercredi 20 septembre à partir de 18h30 à la Maison Jules Roy, et c'est bien évidemment à Vézelay. Puisqu'on est à la Maison Jules Roy, je rappelle, site culturel du Conseil Général de Lyon, je mentionne également l'exposition de photographie de Jean-Paul Sterck qui se tient donc jusqu'à la fin octobre, de 14h à 17h, l'entrée est libre. Et n'oubliez pas que la Maison Jules Roy est fermée le mardi. Et puis, bien évidemment, Evelyne, tu en es informée, n'oublions pas les 28 et 29 septembre prochains, la grande fête du livre au cœur du vignoble bourguignon, hein, c'est Livres en Vigne, c'est la 6e édition. présidé cette année par David Fuenquinos. De très nombreux éditeurs, auteurs et libraires seront présents. C'est au château du Clos de Vougeot, c'est en Côte d'Or, avec effectivement un grand nombre d'auteurs présents. On annonce aussi Bernard Pivot, Didier Van Kovelaert, Denis Tillinac, Jean-Robert Pitt, qui est d'ailleurs le président d'honneur à vie de cette belle manifestation, Jacques Pradel, Pierre Péju, nous l'avons dit, le comédien Francis Perrin, Jean-Pierre Coff, s'il ne fait pas faux bon, Bernard Lecomte, Jean-Paul Kaufmann, Valérie Gans, Cécilia Duterte, Delphine Bertolon, Michel Barrière, Laura Acoba, enfin tous les auteurs participants à Livre en Vigne sont à découvrir grâce et sur le site internet de livresenvigne.com. Je vous donne pour ma part rendez-vous mercredi prochain, 25 septembre, toujours à 21h sur Radion. Nous serons en compagnie de Dominique Drouin pour son roman Tiroir, tiroir, disponible aux éditions Scriptosum. Je rappelle que Wagon Livre, c'est bien sûr tous les mercredis à 21h sur le 90.5 en modulation de fréquence dans le département de Lyon. Mais on peut nous écouter aux quatre coins de la Bourgogne, de la France et du monde entier en direct via le site internet www.radion.fr. Bonne soirée en compagnie de Pop Rock Collection avec Eric. Merci de votre fidélité. À toutes et à tous. Au revoir.